Émile Blémont, Les derniers jours de Pécuchet, avril 1883. Vous connaissez tous Pécuchet, l'illustre Pécuchet, l'inséparable ami du non moins illustre Bouvard, le Pécuchet de Gustave Flaubert. Et vous savez, n'est-il pas vrai, que le grand romancier normand n'a pas fini l'histoire de ses modernes Émule, Dorès et Pylade, par la bonne ou plutôt par la mauvaise raison qu'il a rendu le dernier soupir avant d'avoir pu compléter son manuscrit. Mais ce que vous ne savez peut-être point, c'est que Flaubert, fut-il toujours de ce monde, l'histoire de Pécuchet ne pourrait aujourd'hui même être terminée. Ce que vous ne savez peut-être point, c'est qu'en 1883, Pécuchet vit encore. « Pécuchet, dites-vous avec une hilarité sceptique, Pécuchet, reprenez-vous en goguenardant, mais si, nous savons que Pécuchet n'est pas mort, Pécuchet n'est-il pas immortel ?»« Oh, immortel, il se peut que notre homme le soit, moralement parlant, mais il ne s'agit pas de cela. » Il ne s'agit ni de vie spirituelle, ni d'éternité littéraire. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, réellement, authentiquement, Pécuchet n'a pas cessé d'exister. C'est que Pécuchet respire, c'est que Pécuchet a, va, vient, sent, entend, boit, mange, se digère, se mouche, se couche, se lève, et copie, copie toujours, comme toujours, il copia. Car le bonhomme n'est guère autre chose, vous vous en souvenez assurément, qu'une vivante machine à copier. Oui, Pécuchet subsiste en chair, en os et en esprit. C'est un fait. C'est une source non tarie de documents humains. Ah, vous dressez l'oreille. D'incrédule, vous devenez curieux. Ça vous intrigue. Il faut vous raconter ça. Oh. Je ne demande pas mieux. Le hasard me conduisit il y a quelques jours vers les déclivités de la montagne Sainte-Geneviève, en ce point où le Paris provincial d'Outre-Seine a été récemment éventré par l'ouverture de larges voies nouvelles. Tout dépaysé, j'errais à l'aventure, et je constatais avec un étonnement triste l'aspect violemment transformé des choses et des lieux. Dans les temps déjà si lointains de notre insoucieuse jeunesse, à la place de ce boulevard vide et béant, il y avait là un fouillis inextricable de ruelles antiques, de maisons noires et rigides à pignons et à tourelles. Chaque façade avait alors son individualité, son caractère. La vétusté même de ces murs, plusieurs fois centenaires, offrait un charme mystérieux. Il semblait imprégné d'humanité vive, d'humanité pensive, d'humanité militante et soufflante. Ils avaient été dorés et brunis par tant de soleils disparus, par tant d'ombres envolées. Le flux et le reflux des jours et des ans s'y étaient traînés tant de fois. On y évoquait tant de choses et tant de pensées. À travers la poussière du plâtre et les éclats de pierre des chantiers, j'avançais à pas lents, peiné de voir la froide et rude banalité remplacée par tous les libres manifestations de la vie ondoyante et diverse. Oh, les grandes maisons, carrées, massives, anonymes, uniformes, alignées sous le paratonnerre comme des Prussiens sous le casque à pointe, vastes et plates comme la Poméranie, bêtes comme les cadavres échoués des moutons de Panurge, roides comme des abstractions géométriques, sans grâce, sans élan, sans vie, sans âme, avec leurs balcons à écriteaux et leurs carreaux barbouillés par les peintres, avec leurs cafés bleus, leurs traiteurs rouges, leurs musées de monstruosités médicales, et leurs femmes géantes à jambes éléphantesques, honorées sur le tableau affiche de la visite de plusieurs têtes couronnées. Oh, la tristesse accablante des grandes maisons neuves, de ces grandes maisons funèbres comme des caveaux, nues et glacées comme la mort. Navré, je baisse les yeux pour ne plus rien voir de ce désolant spectacle. Et pendant quelques minutes, je suivis machinalement la chaussée, livré tout entier aux réflexions amères et aux turbulents souvenirs qui se disputaient dans une brume mélancolique les cellules sans phosphorescence de mon cerveau désenchanté. Mais bientôt, cette bataille intime ne me réjouissant guère, je relevai le nez pour chercher au dehors quelques diversions. La rue montante tournait en brusquement et formait un coude. Ce coude était accentué d'un côté par le mur d'un petit jardin plein d'acacias maigres, puis par une palissade fermant un terrain vague, et de l'autre côté par deux hautes bâtisses à porte cochère. Sur la première porte cochère, on lisait en lettres d'or « Institution Tatin », et sur la seconde, en lettres noires, « Institution Rancure ». À l'endroit où la palissade joignait le mur du petit jardin, en face des portes cochères, s'élevait, établie et calée je ne sais comment, une mince échoppe en planches de diverses couleurs également décolorées. L'échoppe était percée d'une porte basse et d'une fenêtre étroite. Quand je relevais la tête, je me trouvais juste devant la croisée, si bien que l'inscription, collée en dedans au carreau supérieur, m'entra tout droit dans les yeux et dans le cerveau. Cette inscription offrait en capitale manuscrite ces deux mots « Écrivain ici ». Une seconde inscription, tout à côté, à l'autre carreau, en capitale identique, portait « Écrivain public ». Et une autre, en plus petit caractère, « Lettres à partir de 0,50 €. » Une autre, en caractères plus petits encore, « L'écrivain ne fait pas de lettres anonymes. » Une dernière, oh, c'était la bonne, c'était le bouquet, présentait ces trois lignes étonnantes, ces trois lignes mémorables, ces trois lignes sans pareil. Pinsomme, grec, latin et français. Les rêves, les pensées, les spéculations, les délires que ces lignes magnifiques éveillèrent en moi, vous les devinez. Je restais cloué sur place, la bouche bée, les yeux ronds. Pinsomme grec, latin et français. Ah, je ne pouvais détacher mes regards de ce nouveau Manet et Selfares. J'étais en extase. Puis la réaction se fit. Ma lèvre inférieure devint dédaigneuse. Pourquoi ce prétentieux écrivain avait-il oublié les pensums ténés hébreux? Pourquoi les pensums anglais, les pensums russes, chinois, allemands, italiens, hongrois, espagnols, japonais, arabes, algonquins, nègres, patagons et tous les autres pensums en langue morte, vivante ou à naître ne figuraient-ils pas sur l'écriteau? Écriteau vraiment dérisoire. Et pourquoi pas, en outre, la langue des oiseaux, la langue des chiens hein, et la langue des grenouilles, dont il est parlé en de vieux livres de légende. Trois fois dérisoire écriteau. Un instant de réflexion me rendit tout entière à mon premier enthousiasme, et je me sentis, pour tout de bon, repincé par le pensum latin et contrepincé par le pensum grec. Un point d'interrogation, un nouveau point d'interrogation, surgit des profondeurs de ma pensée. Quel peut être ce triple entrepreneur de classique pinsum, ce bachelier public à trois becs de plume, cette trinité en échoppe? D'où sort ce pauvre et savant serviteur des écoliers paresseux et bavards? Après que l'inénarrable naufrage est-il venu s'échouer au bord de ce trottoir? Quel cataclysme a réduit cet être bien élevé à prendre l'état de pain-sommier? Mystère. Alors je rêvais. L'inventeur de l'écriteau n'avait-il pas autant d'imagination que d'instruction, autant d'audace que d'imagination? Afficher une entreprise de pinsommes français à 50 pas de la Sorbonne, à la barbe ou au menton rasé de tout un monde de proviseurs, recteurs, inspecteurs, professeurs, répétiteurs et pions, c'était déjà peu joli, mais y joindre le pinsomme latin, mais n'était-ce pas superbe? Et y ajouter le pinsomme grec, n'était-ce pas majestueux, sublime, beau comme l'antique? Ce savant inspiré et hardi, ce génie original et semblable et serviable, je brûlais du désir immodéré de le voir, de le connaître, de le pénétrer. Oh, il me le fallait. J'ouvris avidement la porte de l'échoppe et le cœur battant comme à un premier rendez-vous d'amour, j'entrai. C'était tout petit, mais fort bien aménagé. Ordre et propreté. Des planches, des casiers, deux chaises, une table. Sur la table, tout ce qu'il faut pour tout écrire et effacer tout. Devant la table, un vieux fauteuil en cuir. Dans les bras du fauteuil, un homme. Non, un monsieur, grave, bien assis, jeune encore, quoique très vieux, armé de lunettes miroitantes et coiffé d'une calotte noire qui laissait descendre sur chaque tempe une mèche plate de cheveux poivre et sel. Je le contemplais. D'un geste affable et digne, il m'offrit une des deux chaises. Je la pris sans cesser de le contempler. Il se sentit vaguement gêné. Muet, je le contemplais toujours, il rougit. Je le contemplais impitoyablement. Il toussa. Je maintins ma contemplation. Il ôta sa calotte, il semblait avoir envie de pleurer. Mon regard ne le lâchait pas. Et tandis que mes yeux restaient fixés sur lui, mon imagination allait, trottait, courait, galopait, prenait le mort aux dents, m'emportait en pleine fantaisie. Cet homme transcendant, cet inventeur à calotte noire et à mèche plate, cet être sublime et timide, me disais-je tout bas, mais à quelle espèce appartient-il? Ô hommes athéniens, ô peuple et sénat de Rome, ô Quirite, ô père conscrit, révélez-moi son passé, ouvrez-moi ce cœur. Serait-ce le juif errant, après une commutation de peine? Non, car il ferait aussi des pinsommes juifs et chaldéens. Serait-ce un espion biorusse? Oh, ils savent toutes les langues, ces Allemands. Non, il aurait affiché des pinsommes sanscrits. Son érudition l'aurait trahi. Mais qu'était-ce donc enfin que cet homme? Un fou? Bon, il n'en a pas l'air. Et puis, bon, sa femme, sa fille, son gendre ou sa belle-mère l'auraient déjà fait enfermer dans un asile. Est-ce un lord anglais qui tient à Paris? Sort-il d'un conte d'Hoffmann ou d'une nouvelle d'Edgar Poe? Existe-t-il réellement? Ou n'est-il qu'un fantôme, une erreur d'essence, un mirage, un spectre, une hallucination? Oh, j'avais la tête en feu. Je ne pus me contenir plus longtemps. Pour voir si l'homme existait en réalité, je lui pris le bras brusquement. Il jeta un cri. Ah, Je ne m'étais pas trompé, il vivait. Je reconquis sur le champ toute ma placidité. J'avançais ma chaise, il s'était reculé. Il me considérait avec défiance et même avec un peu d'effarement. Je lui fis un sourire, il fallait le calmer. Or, j'allais à cet effet, lui adresser onctueusement la parole, quand tout d'un coup un éclair me traversa l'esprit. Pécuchet, m'écriai-je. De stupéfaction, il laissa tomber sur sa cuisse, et de sa cuisse à terre, sa majestueuse plume d'oie. Mais d'où me connaissez-vous? S'écria-t-il. Ah, c'était bien la voix forte, caverneuse dont parle Flaubert. C'était bien notre homme, c'était Pécuchet. Tel vous l'avez vu dans le roman, tel il se tenait là, devant moi, sous mes yeux, dans l'échoppe, entre la table à tout écrire et la fenêtre portant annonce des pinsommes classiques et l'annonce des lettres non anonymes. Non anonymes, pensais-je. Oh, honnête Pécuchet, je te reconnais là. Et en réfléchissant, je lui dis, mais comment faites-vous pour savoir si les lettres sont anonymes ou ne le sont pas? Le premier venu ne peut-il point vous faire mouler un faux nom au bas de la missive? En ce cas, c'est comme s'il n'y avait aucune signature, c'est l'anonymat avec circonstances aggravantes. Je fais mon devoir, répondit héroïquement Pécuchet. Que les autres fassent le leur, advienne que pourra. Et rédigez-vous toutes les lettres signées, même celles dont pourraient s'alarmer la pudeur, le bon goût et la morale? Mais la morale, le bon goût et la pudeur n'ont jamais eu à se plaindre de moi, monsieur. Mais comment discernez-vous, par exemple, les lettres écrites pour le bon motif des lettres écrites pour un motif différent? Oh, on voit cela à la figure des gens. On est un peu philosophe. On laisse le reste aux dieux. Vive Pécuchet! Ah, oh, décidément, c'était lui, corps et âme. Je reconnus sur sa table et sur ses tablettes l'encyclopédie Roret, le manuel du magnétiseur, le fénelon, les deux noix de coco. Il avait sur le dos sa vieille camisole en indienne. Ses jambes, prises comme autrefois en des tuyaux de lasting noir, manquaient, comme autrefois, de proportion avec le buste. Il semblait toujours porter perruque, tant ses mèches tombaient plates de son crâne élevé. Son nez descendait plus bas que jamais. Oh, il avait conservé, revu et augmenté cet air sérieux qui, dès le premier abord, frappa conquis Bouvard. Au fait, qu'est-il devenu Bouvard? Car vous voilà seul. Oh là, ne m'en parlez pas, pauvre ami. Et quoi? Je suis veuve de lui. Pécuchet eut une larme. Ah oh oui, cela a dû être bien triste pour vous, mais comment a-t-il succombé? Pécuchet eut un sanglot. Il était de la commune, il a été fusillé au Luxembourg. À mon tour, je fus suffoqué par l'étonnement. Bouvard fédéré, Bouvard fusillé, le bon, le gai, le rond Bouvard, Boulevard le Rabelaisien, ce n'était que trop vrai. L'optimisme de Bouvard avait tourné allègre. Affolé par le siège de Paris, par Ducrot et Trônus, par les Trois Jules, par Champigny et Buzenval, par la viande de cheval et le pain de son, par la poudre et la famine, par l'armistice et la capitulation, Bouvard, réfugié avec Pécuchet dans la capitale, Bouvard était devenu enragé. Il avait été élu à je ne sais quel grade, à je ne sais quelle fonction. Et il était entré, comme les autres, à l'hôtel de ville. Il avait, comme les autres, fait des discours d'émotion. Comme les autres, il avait été mis en prison. Puis, il avait été mis en liberté. Il avait été fait général. Il s'était battu. Il avait désespéré. Il avait voulu mourir. Il était tombé et blessé à l'épaule derrière une barricade. On l'avait relevé pour le juger et le fusiller. On lui avait tiré le coup de grâce dans l'oreille gauche. Et il avait rendu l'âme en criant « C'est la fin de tout !» Et Pécuchet me raconta mélancoliquement ces choses mélancoliques. Bouvard, vous le voyez, a renié au dernier jour l'idéal de sa vie entière, fit-il en terminant. Bouvard est mort, la révolution dans le cœur. Il avait brusquement répudié ses idées pour adopter les miennes. N'est-ce pas étrange? Oui, étrange. Et comment expliquez-vous qu'en même temps, moi, Pécuchet, j'ai répudié mes idées pour adopter les siennes? Oui, j'ai été subitement envahi par ces convictions, comme par un déluge. L'homme antérieur est resté noyé sous le flot torrentiel. Il en est sorti un Pécuchet tout nouveau, un Pécuchet bouvardé et bouvardant. Oh, je croyais à l'immense invasion de l'industrialisme américain, au règne prochain du pignouflisme universel. Et maintenant, j'ai foi dans le progrès indéfini, dans l'harmonie des mondes. L'âme de Bouvard a émigré en moi, comme en lui émigra mon âme. Bouvard m'apparaît tous les jours après déjeuner. Je rêve de lui 3 nuits sur 4. J'ai des conventions philanthropiques. Je thésaurise suavement, je suis tendrement illuminé. L'avenir ne se dresse pas devant moi comme une vaste ribote d'ouvriers, me sent devenir Dieu, le Dieu Pécuchet. Cette divinité imprévue me dérida. En attendant l'apothéose, reprit l'excellent homme, je fais des pinsommes, je copie. Sans cela, la solitude m'aurait tué. Oh, je pensais retourner seul en Normandie. À Paris, on se tire toujours d'affaires. Je copie du français, du grec, du latin. Ça me rajeunit. Et en copiant, je rends service à de pauvres petits diables d'enfants. Je mets en fureur d'affreux cuisses, toujours autant de gagner. Je suis aussi heureux que je puis l'être. On m'a proposé une place dans les bureaux de la ville. On m'a offert le ruban violet d'officier d'académie. J'ai refusé. C'est beau. Même pas le violet, couleur épiscopale. Je désire plus qu'une chose, devenir membre de la Société des gens de lettres. Ah, oui, pour ne pas crever à l'hôpital et pour avoir un discours sur ma tombe. Je vais publier un volume composé des lettres d'amour que le public des deux sexes m'a dicté depuis que je suis venu m'établir ici. Il sera curieux, ce recueil. Je vous l'offrirai avec une belle dédicace en ronde. Vous verrez. Janvier 1903. J'attends encore les lettres d'amour rédigées par un écrivain public. Pécuchet a déménagé sans laisser son adresse. Est-il allé rejoindre Bouvard dans l'éternité ?